Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une seule terre sur Divergence FM.
Alors, Yves Lers, vous avez longtemps travaillé au desk parisien de l'AFP comme journaliste spécialisé de l'environnement. Vous avez ensuite été grand responsable de la communication à l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie. Donc, en fait, vous êtes un des grands témoins de l'histoire du climat. Et puis, nous avons eu le plaisir de travailler ensemble puisque vous animiez les débats sur l'émission que je produisais sur France O, O ma planète. Hein. Et maintenant, vous venez d'écrire un livre donc, sur le vin, le grand bouleversement, quelle vigne pour quel climat. Et c'est à cette occasion que nous nous rencontrons aujourd'hui. Alors, vous partez du fait que le réchauffement climatique est un fait accepté aujourd'hui,
réel. Non, pas accepté.
Réel.
Acquis.
Acquis, voilà.
Mais malheureusement pas accepté.
Malheureusement pas accepté. Et que la vigne est vraiment aujourd'hui la première ligne, le témoin de tous les bouleversements qui sont liés à ce réchauffement climatique.
Au fur et à mesure de l'écriture de ce livre... On en avait écrit un premier en 2015 avec un confrère qui s'appelle Valérie Laramé et qui était menace sur le vin avant la COP 15. Et donc, on avait déjà une idée précise de ce qui allait se passer. Et puis là, sur une commande de l'éditeur, j'ai découvert que tout était pire, tout allait plus vite que ce qu'on pouvait imaginer. Tout allait plus vite et que certains s'en rendaient compte, d'autres s'en rendaient absolument pas compte, parce que c'est vraiment, on a toujours fait ça, c'est pas maintenant qu'on va nous apprendre à changer nos habitudes, etc. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe, qu'il s'agisse de la vigne, qu'il s'agisse des autres cultures, le problème c'est que tout va très vite et qu'il faut se bouger de plus en plus vite, comme ça, c'est doux. Et ce qu'on a découvert du tout, c'est que la vigne étant une plante pérenne, par définition, depuis 3000
pérenne.
Ans... Pérenne qui dure depuis toujours, qui ne, on n'a pas besoin de la ressemeler tous les ans comme le blé ou le maïs, etc. Je ne veux pas dire du mal du maïs, mais et donc pérenne qui dure indéfiniment, mais qui ne dure plus indéfiniment justement maintenant, comme on va le voir. Et sa leçon est d'autant plus intéressante. 3000 ans d'existence, c'est pas rien. Peut-être même davantage et tout, mais pas sous nos cieux. Maintenant, cette vigne-là, on s'est aperçu qu'elle était un témoin et que par son évolution, par la façon dont le climat se répercute sur
donc
la vigne...
Donc elle est très sensible au changement climatique.
Elle est extrêmement sensible, elle est comme une sorte de lanceur d'alerte, elle ne le sait pas, hein, mais une sorte de lanceur d'alerte du changement climatique. Et c'est pas uniquement moi, mais c'est un économiste connu, Patrice Geoffron, qui a dit, mais bien sûr, c'est évident que c'est un lanceur d'alerte parce qu'elle est sur tous les climats dans le monde entier et qu'on constate la même chose, qu'on soit en Argentine, qu'on soit au Chili, qu'on soit en France, qu'on soit en Amérique du Sud, qu'on soit en Afrique du Sud ou en Australie, eh ben, on le constate, l'évolution très négative, bien sûr, au fur et à mesure.
Alors, cette enquête, donc, vous l'avez menée à travers le monde, en Europe, en France. Vous avez été voir...
Aux États-Unis.
Aux États-Unis, oui, bah, en Europe et dans le monde.
Oui, c'est
voilà,
ça.
Et vous avez vu et visité toutes les grandes régions viticoles du monde. Et partout, vous avez fait le même constat. Ça bouge.
Partout, on fait le même constat, c'est que... Ça bouge et ça bouge très vite. En gros, la vigne elle-même souffre beaucoup. Elle souffre d'un certain nombre de maladies, des maladies qui ont toujours existé, mais qui sont de plus en plus présentes et qui sont aggravées par le changement climatique. Que ce soit l'oïdium ou le mildiou, qui sont des maladies classiques, ou d'autres, d'autres maladies à base de champignons, champignons divers, et qui arrivent à provoquer des dégâts considérables, à tel point que la vigne aujourd'hui, elle est malade, et qu'en gros, il y a 10% de la vigne qui meurt tous les ans.
Alors, donc, à travers le monde, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits exemples? On ne va pas... Le livre qui est aux éditions Chastel, je le répète, nous ramène très, très loin et partout. Mais aujourd'hui, on est réellement... vous avez vu des exemples un petit peu partout dans le monde.
Il y a des exemples un peu partout.
Quels sont les plus importants? Voilà.
Il y a un exemple qui est près de chez nous, c'est l'Europe. Et l'Europe, dont la France, bien sûr, qui a des difficultés. Deux pays qui ont des difficultés, c'est l'Italie et l'Espagne encore plus. On a vu cet été à quel point elle a souffert de la chaleur et de la sécheresse et du manque d'eau. On reparlera de l'eau après, parce que l'eau, c'est... sans eau, il n'y a pas de vie, naturellement. Et la France. La France, elle est en quelque sorte partagée en deux. Les vignes qui sont dans cette région-là, elles se portent bien aujourd'hui.
Dans cette région-là, vous voulez dire en Languedoc?
Je veux dire en Languedoc, excusez-moi. En Languedoc, ces vignes-là qui sont situées sous le 45e parallèle nord, qui passe juste au-dessus de Bordeaux et qui va jusqu'à Valence de l'autre côté, ces vignes-là, elles continuent à pas mal se porter.
Et pourquoi vous nous parlez du 45e parallèle? Je parle du... Il est mythique ou quoi?
Il est assez mythique. Pour les Bordelais, il n'y a pas de bon vin sans le 45e parallèle. Et si vous parlez dans la vallée du Rhône, il y a un vin de Jaboulet qui s'appelle 45e parallèle. Et après, il y a un bouquin qui a été fait par un viticulteur du Bordelais qui s'appelle « Tout est bon sur le 45e parallèle » et qui n'est pas un bouquin très vieux, il est de 2014. Du coup, j'ai cherché ce bouquin-là, j'ai recherché et je me suis aperçu, c'est gentil son truc, mais c'est plus vrai aujourd'hui. Maintenant, il y a une fracture. Cette fracture, elle peut passer par là, c'est plus ou moins haut. Hein. C'est pas à 20 km ou à 5 km près.
Donc, en même temps, c'est devenu une espèce de ligne climatique.
Oui, une ligne de démarcation, presque.
Une ligne de démarcation.
J'aime pas ce mot, parce que, franchement...
Mais ça veut dire qu'en dessous, le vin était bon et au-dessus, il était mauvais, ou quoi?
Non,
ça voulait
pas,
dire quoi?
C'est pas si simple que ça. En dessous, c'est là que ça va le plus souffrir, et ça a commencé à souffrir. Le Bordelais, on en reparlera, le Bordelais a commencé à souffrir. Ils ont demandé à arracher 15 à 20% des vignes, ce qui est phénoménal. On n'a jamais vu une chose pareille. Et puis, au nord, il y a des choses qui tiennent. Il y a dans le sud-ouest des vignes qui tiennent bien le coup, qui sont souvent en colline, et où on a anticipé le changement de cépage en revenant à des cépages anciens, avec des méthodes de culture beaucoup plus... avec de l'observation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de mettre les vignes dans la cave et d'attendre qu'il y ait des sorciers qui s'en occupent. Et puis qu'à un moment donné, on ne sache pas ce que ça va donner. C'est beaucoup plus important que ça. Le Languedoc ou les Côtes de Provence dont on parle, ils ont fait des efforts justement d'observation et de soins, de changement de cépage. Et
ça s'est fait finalement assez tôt. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, on s'est aperçu que ce n'était pas le degré qui faisait la qualité et qu'un vin... pouvait être qualifié indépendamment de son degré, justement.
Complètement, oui, complètement. Et c'était ces recherches qui ont été faites depuis une bonne vingtaine d'années quand même. Changement de cépage, beaucoup plus d'observations, travail sur les sols, qui est naturellement indispensable pour toutes les plantes et qui a été très négligé grâce à tous les pesticides qu'on colle dans le sol. Et puis, à un moment donné... Ça s'est perçu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de problème demain. Ça ne veut pas dire que si. Mais ce qui se passe aujourd'hui les met à l'abri. Je ne sais pas comment sera l'année 2023 au point de vue été, ou même depuis le printemps et jusqu'à l'automne, toute cette période-là pendant laquelle la vigne pousse. Mais en tout cas, si deux années de suite, on a des étés aussi chauds, ou même si c'est deux, trois fois par décennie, ce qui est très probable, d'après les chercheurs. Ce n'est pas mon opinion personnelle, d'après les chercheurs. Alors là, ça va mal. Et ça va mal, pas seulement pour la vigne. Ça va mal pour les céréales, ça va mal pour les fruits. pour les vergers. Et ça va mal pour beaucoup de choses qui sont en cours.
Alors pourtant, les gens du Languedoc se disent « Oh, on va y arriver !» Parce que depuis longtemps, ils ont eu affaire justement à des crises répétées. On sait qu'en 1850, il y a eu la crise de l'oïdium. Ensuite, il y a eu le phylloxéra en 1863. Puis en 1900, on a eu le mildiou. Enfin, à chaque fois. Et puis après, il y a eu les arrachages parce qu'on avait une surproduction. Donc, en fait, les viticulteurs ont manifesté. Ici, on se souvient des grandes crises à Montpellier, avec des milliers de viticulteurs dans les rues. Et aujourd'hui, voilà une nouvelle menace qui s'appelle le réchauffement climatique. Alors, est-ce que, à votre avis, ils vont s'en tirer encore ?
Au sud ? Dans le sud ?
Oui.
Ça va être compliqué. Hein. Quand on parle de ces années-là, il y a eu des périodes entre les deux guerres où on arrivait à produire jusqu'à 80 millions d'hectolitres. Pour 36 millions d'habitants. Aujourd'hui, on produit 45 millions d'habitants pour 45 millions d'hectolitres, pardon, pour 68 millions de Français. Et bon, 68 millions de Français, plus ce qu'on exporte, etc.
Alors, on sait qu'on boit de moins en moins.
On boit de moins en moins, effectivement. La bière fait des progrès, c'est plus facile à produire et tout. Mais heureusement, le vin, lui, a fait des progrès en qualité. Ce qui explique aussi que le Languedoc, le Languedoc, toutes ces régions, le Côte de Provence également, les petits rosés qui râpaient il y a quelques années avec la pizza, c'est fini. Maintenant, il y a des très bons vins aussi en Provence.
Alors parlons-en un tout petit peu. On sait que depuis le 5e siècle, la vigne s'est installée sur le midi de la France. Vous l'avez rappelé, on a d'abord produit énormément, mais aujourd'hui, on vise les AOC. Enfin, on vise plus de qualité et on a aujourd'hui un vignoble qui commence à se positionner un petit peu.
Oui, il y a les AOC et il y a aussi parce que le gendarme de la vigne et des produits alimentaires qui s'appelle l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, est un gendarme un petit peu dépassé par les événements, mais je suis gentil, là, je veux dire.
C'est-à-dire, alors, dites-nous un petit peu, ça nous intéresse.
C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se mettre à jour, voilà.
À jour sur quoi ?
Parce qu'il ne veut pas admettre que le climat change, il y a eu plein d'autres choses sur lesquelles il fallait qu'il bouge. Oui, mais dans le cas présent, il est indispensable. Il est incontournable, il n'est pas indispensable, il est incontournable. Donc il y a des bagarres autour de ça et tout. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des changements, il y a des vins d'AOC qui tiennent bien. Il y a de plus en plus, pour contourner justement l'INAO, des viticulteurs et des viticultrices, parce que les femmes sont de plus en plus présentes dans les vignes, et des viticultrices donc qui contournent les AOC et qui font des vins de France qui sont largement à la hauteur de certaines AOC. C'est dommage parce que l'AOC, c'est une protection et il faudrait revenir...
Alors c'est dommage parce que vous voulez dire qu'elles ne sont pas protégées, c'est ça ? Leur travail est mal protégé.
Le résultat est mal protégé, c'est-à-dire qu'on trouve de tout dans les vins de France. On trouve des vins qui sont de qualité et on trouve d'autres vins qui sont vendus à des prix trop élevés et qui ne méritent pas du tout d'être ces prix-là, et qui n'ont pas ces qualités. Mais globalement, il y a effectivement beaucoup d'évolutions liées à ça. Pardon.
Donc, beaucoup d'évolutions liées à ça, c'est-à-dire
beaucoup d'évolutions liées au changement climatique, à savoir que de plus en plus de vignes sont cultivés au-delà, c'est-à-dire au nord du 45e parallèle, et qui sont des vignes existantes. Je pense à la Bourgogne, la vallée de la Loire, l'Alsace et la Champagne. La Champagne ne s'est jamais si bien portée. Jamais. L'Alsace...
Et pourtant, on dit que le Champagne va migrer. Alors, moi, j'étais allée visiter... les caves de Mouette et Chandon dans la Napa Valley. Et j'étais, en tant que champenoise, extrêmement étonnée de voir que des cuves en acier remplaçaient les fûts de bois, que nos caves et nos souterrains étaient remplacés par des espèces de grands hangars. Hein. Et pourtant, le champagne était le même. Alors, c'est un vin, finalement, qui est assez trafiqué, quand même,
le champagne. Je ne suis pas sûr que c'était tout à fait le même, quand même. Pour les champenois... C'est pas une menace d'ailleurs. Là où on fait du vin pétillant, du sparkling, c'est l'Angleterre.
Maintenant.
Et en Angleterre, c'est beaucoup de de grands producteurs, mais de grandes maisons champenoises qui ont investi en Angleterre. Pour moi, ça, c'est vrai pour le
vin. Mais elles n'ont pas le droit à la dénomination champagne.
Non, c'est du pétillant, du sparkling, etc. Et qui est vendu en général plus cher que le champagne chez nous. Donc, et ils le boivent, parce que les Anglais boivent beaucoup de champagne. Ils y arrivent et tout. Maintenant, revenons en France. En France, la vallée de la Loire est plutôt bien partie, avec des cépages qui autrefois étaient raides, comme le Cabernet Franc, qui maintenant est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable à boire. Et puis le chenin dans les vins blancs qui fait des petites merveilles.
Alors revenons maintenant donc au réchauffement climatique. Tous ces vins vont bouger. Alors on a beaucoup parlé de stress hydrique lié aux canicules. Et puis l'année dernière, on a vécu quelque chose qui risque de se renouveler cette année. C'est-à-dire qu'on a vu la vigne débourrée très, très tôt. Dès février, parce qu'il faisait doux. Et puis, on a eu, après, des gels.
Février, plutôt mars.
Et on a vu ensuite des gels tardifs. Et on a vu l'ensemble des plaines. Alors, c'était très beau esthétiquement. Qu'on voyait partout, la nuit, des bûchers allumés,
oui,
etc.
Avec un niveau de pollution extrêmement élevé. À voir, le plus efficace contre le gel, c'est l'eau. C'est-à-dire asperger l'eau. Maintenant, je reviens à ces gelées. Il fait très chaud, il fait un temps très doux en mars. Regardez, aujourd'hui encore, on est en janvier, il fait très doux depuis Noël et même avant Noël. Donc, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui se passe et quelque chose qui se passe vraiment. Après, la vigne, une fois qu'elle a débourré, c'est-à-dire une fois que le bourgeon commence à émerger, si en début avril, autour de la première quinzaine d'avril, autour du 10 avril, il y a un coup de gel, et là, on est bien dans le changement climatique, c'est-à-dire chaud avant et froid après, et bien là, ça fiche en l'air tout le truc. Le problème, c'est que les méthodes actuelles, comme celles que vous citiez, les bras zéro, etc., ont complètement l'année dernière, envahi la ville de Bordeaux. Il y avait des fumées des bras zéro jusque dans le Bordeaux. Alors, à un moment donné, il y a d'autres systèmes, il y a d'autres trucs qui sont plus doux et tout. Il y a d'autres.
Alors parlez-nous un peu justement de ces autres systèmes plus doux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer finalement
Pour le gel, il y a des systèmes mécaniques avec des surveillances extrêmement rapprochées. Et il y a entre autres des systèmes différents de taille. Une taille qui peut être plus haute. Qui fait que si vous avez une taille plus haute, le raisin qui est plus haut va déguster, sans jeu de mots, c'est-à-dire qu'il va prendre le froid, mais celui qui sera en bas, lui, restera vivant. C'est bien le cas de le dire, ça restera vivant. Parce que si vous avez un gel de moins de 2 degrés à hauteur d'homme, au niveau du sol, il est de 4 degrés, de moins 4 degrés. Donc ça remonte tout doucement, et là, ça fiche un coup... On retrouve des systèmes comme ça très difficiles à maîtriser avec la grêle. Alors maintenant, il y a des systèmes techniques, des technologies autour de la grêle qui permettent de l'éviter. Mais chaque fois, il s'agit de procédés très chers qui font que les petits vignerons n'y ont pas accès. Or, la France des vignes, c'est une France des petits vignerons. On n'est plus une France de petits agriculteurs, mais il faudrait qu'on reste une France de petits vignerons.
Alors, on vient d'évoquer donc la manière de se protéger un peu du gel, et plutôt, au contraire, d'un réchauffement accru en période froide, avec des gels qui viennent après. Vous avez pensé que pour s'adapter... vous pensez que pour s'adapter, la vigne doit avoir trois priorités, le sol, l'eau et les cépages. Alors, le sol, rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire pour le sol?
Le sol, c'est se passer des pesticides. Pas compliqué. Il faut qu'il y ait un sol vivant. Les sols sont 35 fois plus vivants en biodynamique qu'en du...
Moi, j'ai...
Les sols en bio sont beaucoup plus vivants aussi.
Mais sur la région, ça ne suffit pas. Par exemple, moi,
non,
j'ai vu
j'ai pas dit que ça suffisait.
La montée des eaux conduit à la salinité percolation.
Oui, bien sûr.
Ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien.
Ben non, il faut déménager.
Voilà, il faut déménager.
Il faut déménager.
C'est une solution. Déménager, ça veut dire un matériel végétal qui peut bouger.
un matériel végétal qui peut bouger. Là encore, on retombe sur des contraintes physiques et des contraintes financières qui sont énormes et qui ne sont pas à la portée du petit vigneron. Dans certaines régions ensablées, sablonneuses, comme il y en a pas loin d'ici, c'est vrai que ça commence à poser un problème pour de vrai. Ça pose un problème qui n'est pas encore tout à fait résolu. On en a conscience, mais dans toutes ces histoires-là, le fait d'en avoir simplement conscience ne suffit pas à dégager une volonté de se bouger et de faire autre chose. Dans certaines régions, oui. Dans d'autres, non.
Alors ici, par exemple, on pense que un système qui est déjà adopté depuis un certain temps, qui est d'inonder les champs de vigne par de l'eau douce et donc de rétablir dans le sol finalement un équilibre entre eau douce et eau salée suffirait. Sauf que on est en phase de sécheresse. Donc, on envisage des bassines.
Où est-ce que vous allez la chercher, l'eau douce, justement? Ah ouais, chercher des bassines, et à ce moment-là, ce sera au détriment d'autres cultures. Il faut bien se dire une chose, c'est que la vigne, c'est très bien, le vin, c'est très bien, mais ce n'est pas elle qui nous nourrit. C'est les cultures vivrières. Et si on prive d'eau les cultures vivrières au détriment, au profit de la vigne, à mon avis, ça ne durera pas longtemps. Et dans 10 ans, peut-être même dans 5 ans seulement, on y sera. On y sera et tout. Maintenant, c'est réglementé. L'irrigation est réglementée. Elle est très réglementée de façon assez sérieuse. Mais il y a une limite. Dans l'histoire du changement climatique, il y a une limite. On les comprend maintenant, mais on n'en est pas loin.
Alors, vous avez aussi beaucoup travaillé sur les cépages traditionnels. Ça vous a mené très loin, cette histoire.
Il y a des cépages anciens qui résistent à certaines maladies, qui sont efficaces, qui donnent des bons vins. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire pour ces cépages-là qui donnent bien ? Il y a des cépages hybrides qui sont un cépage.
Qu'est-ce que c'est qu'un cépage?
Un cépage hybride, c'est le Vitis vinifera, qui est notre cépage européen, et un cépage hybride qui est un cépage venu des États-Unis, comme on l'a fait après le phylloxéra. Alors, ceux-ci résistent mieux à des maladies, mais on ne sait pas s'ils résisteront à la sécheresse, au froid, etc., à des tempêtes et tout le bazar qui nous attend, j'allais dire.
Et alors, on a des gens comme le chercheur qui est à Supagro, à l'INRA, Boursicot, qui travaille aussi sur des vignes qui ont des siècles. Des vignes même sauvages.
Oui, le travail sur les vignes sauvages, les Français s'y sont pas trop intéressés. C'est comme les vignes hybrides, c'était les Allemands et les Suisses. Les Allemands qui vont, eux, profiter du changement climatique pour pouvoir cultiver jusqu'à la mer, et dessus. Maintenant, il y a toutes sortes de solutions. Il y a des solutions qui sont liées à la science aussi. Mais il faut bien dire une chose, chaque fois qu'on crée un nouveau cépage, il faut 10 ans, 15 ans. Je ne suis pas sûr que le changement climatique nous laisse autant de temps. Parce qu'au fur et à mesure qu'on sélectionne, on élimine aussi. Et donc, c'est long, c'est dur, c'est difficile.
Alors, dans la région, on a une collection historique qui est celle du domaine de Vassal. Aujourd'hui, cette collection est menacée.
Alors, elle est dans le sable et dans l'eau. Elle n'est pas encore dans l'eau, mais elle est dans le sable, ça depuis toujours, ce qui permettait d'éviter justement que les maladies et tout. Et dans l'eau, maintenant, elle est très proche de l'eau. On va la déménager.
Alors, on doit la déménager, mais on attend.
Non, normalement, les décisions sont prises, mais ça coûte des millions, des très, très chers. Et le monsieur qui est propriétaire de ces terres-là voudrait que ça aille plus vite. Mais le problème, c'est que si on déménage, on va perdre une partie des caractéristiques de ces vignes-là, qui sont exceptionnelles au monde. Il n'y a pas mieux que ça.
Alors, qu'est-ce qu'on va perdre, justement?
Pour ces vignes?
Oui.
Ben, on va les déménager. Mais elles seront plantées après comme des vignes ordinaires, entre guillemets. C'est-à-dire, on n'aura pas des vignes qui sont d'origine, quoi. Ce sera bien. Il y a des centaines de variétés différentes. Il y a centaines d'experts du monde entier qui viennent ici voir ce qui pourrait... Des gens de France aussi, d'Alsace, qui viennent chercher telle vigne qui donnera mieux, qui fera quelque chose de meilleur, etc. C'est très compliqué, et c'est encore plus compliqué, c'est pour les gens du Bordelais, où on a, comme je le disais tout à l'heure, demandé, fait une demande pour arracher 15 à 20% de la vigne, ce qui ne s'était jamais vu. Le problème est dans le Bordelais, en bas du Bordelais, pas, chez les, pas dans les grands crus, mais il faudrait qu'il y ait, ce que suggèrent certains, qu'il y ait un élan de solidarité vis-à-vis des petits.
Alors, Yves Lers, avant de nous quitter, juste un dernier mot. On pense, enfin ici, il y a une grosse bataille, bien sûr, autour de l'eau et de du partage de l'eau. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée de maintenir la vigne en l'irriguant?
Alors, le partage de l'eau, c'est ce que j'ai commencé à dire. Le partage de l'eau, il faudra qu'il aille d'abord aux cultures vivrières, hein, celles qui nous produisent des légumes et des fruits, éventuellement. Pas éventuellement, complètement. À un moment donné, le choix, il sera vite fait. Le Rhône, qu'est-ce qui sera le Rhône, par exemple, dans 20 ans ou dans 50 ans? On sait que les glaciers en Suisse vont commencer à fondre. En Pyrénées aussi. Donc tout ça, dès que ça fond, ça fait moins d'eau. C'est pas compliqué. Les pluies, elles sont soit plus violentes, soit plus rares. Donc c'est très compliqué. Moi, l'irrigation, je pense que à 10 ans, c'est pas possible. Voilà. C'est tout à fait... Et je ne suis pas le seul à penser ça. Il y a des chercheurs qui sont exactement sur la même longueur d'onde, même si l'irrigation est encouragée par les pouvoirs publics européens et français. Mais c'est une ânerie.
Mais on parle de plus en plus de l'usage des eaux usées.
Ben oui, si on fait ça avec les eaux usées et qu'on les transforme, mais on les transforme pour tout le monde à ce moment-là. Est-ce qu'on en aura assez? Il y a des vignobles qui ont des sous qui arrivent à le faire.
Très bien. Alors, Yves, merci pour toutes ces informations. Je rappelle le titre de votre livre. Vous avez écrit un livre sur le vin, le grand bouleversement. Quelle vigne pour quel climat? C'est édité chez Bustet-Châtel et on peut le retrouver pour tous nos éditeurs qui ont envie de le lire parce qu'il y a tellement de choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui, de la Bourgogne, des autres pays du monde, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, etc.
De l'Australie.
Donc, belle lecture à tous.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.